matinales. La question du jour, Christian Vadon.
Bonjour Christian.
Bonjour Antoine.
En début de semaine, en inaugurant le viaduc de la Dordogne en Gironde, Manuel Valls a souligné sa volonté de relancer les contrats de PPP, comprendre partenariat public-privé. Récemment, un rapport de la commission des lois du Sénat avait émis des critiques sur ces contrats et formulé des propositions.
Alors, instaurés par une ordonnance de juin 2004, les contrats de PPP sont un outil de l'investissement public au même titre que les marchés publics ou les délégations de services publics. Par ce contrat, une collectivité publique, que ce soit l'État, un établissement public ou le plus souvent une collectivité territoriale, confie à une entreprise privée la mission globale de financer, de concevoir tout ou partie, de construire, de maintenir et de gérer des ouvrages ou des équipements publics concourant aux missions de service public. Un partenariat qui entre dans un cadre de longue durée. En 10 ans d'existence, les PPP ont connu un emballement spectaculaire de 146 millions d'euros en 2007. Ils sont passés à 22 milliards d'euros en 2012.
Alors, à leur naissance, ces contrats de partenariat ont été encensés pour leurs vertus supposées. Quelles sont alors, Christian, leurs qualités ?
Guillaume Fard, maître de conférence à Sciences Po au Paris et membre de la chaire de recherche sur l'économie des partenariats publics-privés à la Sorbonne, il en voit trois majeurs.
Les deux premiers portent sur ce qu'on appelle dans le jargon les opérations de maintenance, savoir que dans un contrat de partenariat, d'une part, celui qui construit l'ouvrage est aussi celui qui le maintient, qui en assure les opérations de réparation au quotidien pendant toute sa durée de vie. Donc on peut de ce fait présager qu'il sera assez attentif à la qualité de la construction de son ouvrage. Le deuxième avantage lié à la maintenance, c'est que la maintenance est sanctuarisée sur le plan budgétaire et que donc on ne sera a priori pas confronté à des situations où la personne publique investirait massivement dans la construction d'un ouvrage, puis ensuite, pour équilibrer ses budgets, dégraderait les moyens qui seraient alloués à la maintenance de l'ouvrage. Donc on peut estimer ainsi que l'ouvrage, à terminaison du contrat, sera en bon état d'usage. Le dernier avantage, c'est que pour la personne publique, on passe d'une logique de propriétaire à une logique de locataire. Alors dit comme ça, on a l'impression que ça voudrait dire que la personne publique serait dépossédée de la propriété du bien. En réalité, ce qu'il faut surtout y voir, c'est que la personne publique consomme que ce dont elle a vraiment besoin. Et donc on permet ainsi d'optimiser la dépense publique.
Alors si ces partenariats publics-privés ont été mis au pinacle à leur début, depuis les ardeurs, Christian, sont retombées.
Oui, certains élus parlent de bombes à retardement. Outre la question financière, les critiques portent sur l'ascendant que prendrait le privé sur le public. De même, les grands groupes de travaux publics seraient favorisés par rapport aux PME. Alors quelles sont les limites réelles et les défauts de ces PPP, Guillaume Fard ?
Le premier risque, c'est un risque de strangulation budgétaire. C'est-à-dire que dès l'instant où vous signez un contrat de partenariat public-privé, vous vous engagez dans la durée pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans le cas de certains contrats, et vous sera ainsi très difficile d'amender le contrat, de faire des avenants, bien tout simplement de revenir au statut quo ante ou de résilier le contrat. Et donc, c'est une forme de rigidité qui peut être, dans certains cas, préjudiciable à la personne publique. Et puis, strangulation budgétaire, je disais, c'est lorsque vous concluez beaucoup de contrats de ce type, parce que comme vous êtes engagé au titre du contrat, si vous en concluez plusieurs, ça ampute d'autant vos marges de manœuvre budgétaires, et donc on peut comme ça avoir des États ou des collectivités territoriales qui auraient conclu beaucoup de contrats et qui se retrouveraient de ce fait un petit peu limitées dans leur marge de manœuvre budgétaire au moment de la conclusion de leur budget. Dans certains cas, c'est un outil adapté. Dans d'autres cas, c'est un outil moins adapté. Il faut simplement avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que dans les cas où ce n'est pas l'outil le plus efficient, eh bien, il faut lui préférer un autre contrat.
Certains disent que ça favorise les grands groupes, notamment de BTP au détriment des PME, puis que ça peut amener parfois à des privatisations de services publics. Comment il faut lire ces critiques ?
Le contrat de partenariat public-privé n'est absolument pas une privatisation. Il n'y a pas d'acte de vente d'un service public au profit d'une personne privée. On est simplement sur une forme d'externalisation pour une durée bien déterminée à une personne privée qui s'engage à des obligations de résultats très strictes, à défaut de quoi elle sera pénalisée par la personne publique. Alors pour les grands groupes par rapport aux PME, bon, la première chose qu'il faut préciser, c'est que sur des gros projets bâtimentaires, comme on dit dans le jargon du PPP, l'ampleur de l'investissement consenti fait que naturellement il est très difficile pour une petite PME d'accéder à ce type de marché. En revanche, ce qui est certain, c'est que on aurait pu envisager de laisser une place plus importante aux PME dans le cadre de la globalisation du contrat. C'est-à-dire que parfois, les grands groupes peuvent avoir la tentation d'écarter des PME pour casser les prix et eux-mêmes tenir bien en bride courte la réalisation de l'ouvrage.
Et notons que dans un récent rapport, la commission des lois du Sénat a émis des critiques mais aussi des propositions.
Elle a particulièrement dénoncé l'échelonnement sur la totalité de la durée du contrat de la rémunération de la personne privée par la collectivité ou organisme public, ce qui plombe leur budget, leur liberté d'investissement. La commission préconise aussi des évolutions. Guillaume Fard en relève les plus pertinentes.
Je pense qu'une des évolutions qui peut être intéressante serait de voir dans quelle mesure on pourrait faire du contrat de partenariat finalement un contrat assez chirurgical. C'est-à-dire que je crois qu'il faut en revenir peut-être pour ce type de contrat à des projets modestes et surtout des projets pour lesquels le contrat de partenariat n'est pas un crédit bail déguisé comme on a pu le voir dans certains cas et notamment dans certains gros projets bâtimentaires. Le contrat de partenariat, c'est bien un contrat qui maximise l'utilisation de l'ouvrage par la personne publique. Donc il faut que le modèle locatif ait une vraie plus-value. Et là, on est vraiment dans le sens de la philosophie de l'ordonnance de 2004. Un second élément d'évolution, ce serait d'essayer de limiter au maximum la part de fonds d'investissement privés et en revenir autant que faire se peut à de l'investissement bancaire, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que dans certains cas, les prêteurs ont pu être un peu agressifs et parfois ne pas totalement jouer le jeu de l'ordonnance de 2004. Et donc, contrôler plus étroitement les prêteurs, ça peut être aussi une orientation tout à fait envisageable.
Les explications assez claires de Guillaume Fard, il est maître de conférences à Sciences Po Paris et surtout membre de cette chaire de recherche sur l'économie des partenariats publics-privés à la Sorbonne.
Merci Christian. Va donc tout de suite votre invité.